Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va voir comment le vide émotionnel laissé par le départ d'un papa va finalement façonner le parcours de sa vie. On y va pour les détails.
Média. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nora Baradi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je crois que c'est la Nora.
Merci beaucoup pour l'invitation et c'est un réel plaisir.
Le plaisir est vraiment partagé. Alors Nora, on raconte la petite anecdote à notre communauté de femmes d'aujourd'hui. C'est que cette petite voix appartient à une femme de 42 ans, Yek.
Effectivement. Je suis née en 83.
C'est qu'on peut se tromper et justement, ça t'est arrivé justement qu'on pense que tu es la fille de... que tu es une enfant et pas la professionnelle que tu es.
Effectivement. À un moment dans ma carrière, j'ai eu un consultant par téléphone et au départ, il n'était pas joignable, donc je lui avais laissé un message sur boîte vocale. Quand il m'a rappelé, il m'a demandé de lui passer ma mère. Sachant que j'avais une petite voix, etc. Je lui disais, écoutez, monsieur, c'est moi qui vous ai contacté. Il ne m'a pas cru pendant un laps de temps. Et par la suite, il s'est excusé.
Nora, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que bon, quand j'ai enregistré ton numéro sur mon téléphone, j'ai pu lire la phrase qui accompagne en fait, ta description où tu dis, tu me manques, papa, la rahmak, ou salik. Et en même temps, ce papa, tu ne l'as pas vraiment connu.
Je l'ai connu, oui, parce que j'allais le voir souvent, mais j'ai pas eu cette connaissance approfondie avec lui. C'est-à-dire qu'en termes de personnalité, qu'en termes d'échange, etc., on n'était pas très proches pour pouvoir échanger, pour pouvoir un petit peu comprendre et cerner sa personnalité. Je ne juge pas, je ne le blâme pas, parce qu'avec un certain moment, j'ai fait un travail sur moi. Pour effectivement essayer de comprendre, essayer de voir. Et donc voilà. Mais sinon,
alors, est-ce qu'on peut y aller petit à petit? Qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents se sont séparés, tu étais très jeune, c'est ça?
Effectivement, mes parents ils ont divorcé lorsque j'étais âgée de 5 mois.
5
et
mois.
Donc, du coup, par la suite, comme vous le savez, le divorce au Maroc, c'est un peu difficile. Je partais le voir quelques fois, etc., mais la présence n'était pas souvent là. Et donc, du coup, je passais la plupart du temps avec mes tantes, mes tantes, mes cousins, etc.
D'accord. Et ça a développé quoi en toi? Comment ça t'a marqué?
Mais écoutez, il y a déjà le manque de sécurité, parce que le papa, c'est la sécurité. Le papa, c'est le premier homme de chaque fille d'entre nous. Et donc, du coup, ce manque-là, il est difficile parfois à pallier.
Ça veut dire quoi? Ça t'a empêché d'être en confiance avec un homme?
Oui, et ça complique les choses dans la manière de percevoir l'homme. C'est-à-dire qu'on cherche le père partout, en fait. En fait, dans chaque relation père-fille qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas été complète en termes de sécurité, on a beau rencontrer des hommes dans sa vie, mais c'est toujours le sentiment de chercher le père, de chercher la sécurité, alors que logiquement, la personne qui est en face, est-ce qu'elle est capable de prendre la responsabilité d'un père ou pas? Donc du coup, et des fois, on a tendance à demander beaucoup de la personne en face, du partenaire en tout cas, et c'est ça qui fait que la plupart des relations ne marchent pas.
Tu as quelqu'un dans ta vie aujourd'hui? Tu es mariée?
Non, je suis célibataire. Non, jamais mariée, je suis célibataire.
Ouais.
Oui.
Tu penses que c'est lié à ça?
Oui, non. Je me dis un petit peu, pour ne pas vous mentir aujourd'hui, je pense que c'est souvent 10% lié à ça et 30% non. Et des fois, je me dis que c'est 50-50, des fois, je me dis que c'est 40-60. Mais aujourd'hui, je travaille un petit peu sur moi-même pour effectivement ne pas rechercher le père dans le partenaire que je vais rencontrer prochainement, ou on ne sait jamais. Je travaille sur ça pour corriger un petit peu ce qui n'a pas été corrigé, pour me réconcilier un petit peu avec la partie la partie du père perdu. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis inscrite en master en coaching. J'ai fait une séance avec la prof et j'ai pu mettre les mots sur la douleur et j'ai pu dire « Écoute, papa, je te pardonne. » Et ça m'a fait avancer un petit peu. Mmh. Ça m'a fait avancer.
Et tu le penses vraiment, ce « je te pardonne »
Avec, après avec le recul, je me dis oui. Je me dis oui parce que on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Donc, donc, je ne savais pas mon père comment il réfléchissait, qu'est-ce qu'il pensait, etc. Donc, du coup, je préfère pardonner pour déjà, pour que je sois moins en paix à un certain moment, parce qu'on arrive à un stade où le fait de ruminer à chaque fois, on n'avance pas. Donc, du coup, là, c'est un pardon assez franc.
Il est franc cette fois-ci.
Oui, il est franc et sincère.
Ouais. Quand on a échangé la première fois ensemble, tu m'as dit je suis la spécialiste des échecs.
Ah oui. Alors moi ma vie c'est des échecs que maintenant quand j'y pense je rigole parce qu'effectivement toute ma vie ça a été des hauts et des bas et la plupart du temps c'est des échecs mais qui me rendent un petit peu plus forte et qui me font rire parfois parce que moi je ris j'aime beaucoup me rire de moi-même et donc du coup des fois quand je me souviens des échecs que j'ai vécu ça me fait rire.
Mais qu'est-ce qui te fait rire ? Parce que ce que tu me disais la dernière fois, c'est que mes échecs, en fait, sont une source d'apprentissage.
Oui, effectivement. Alors, mes échecs sont une source d'apprentissage parce qu'à chaque fois qu'il y a un échec, je me relève. Je me relève pour effectivement apprendre, pour apprendre de mes erreurs, pour ne pas recommettre mes erreurs. Même si des fois, on retombe aussi dans nos vieilles habitudes. Mais sinon, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, de comprendre un petit peu mes limites. Et parmi les choses qui m'ont un petit peu boosté en termes de confiance en moi, parce que l'échec à répétition, donc il donne l'impression qu'on est capable de rien, on peut rien faire. Donc moi, je m'étais prise un défi d'aller en France toute seule. Première expérience à l'étranger, toute seule pour un petit peu voir mes limites, jusqu'où je peux aller. Et aussi parce que quand on donne l'image de l'échec à chaque fois, l'entourage fait que on croit toujours que la personne n'est pas capable de faire, etc. Et moi, c'était un défi pour moi et pour mon entourage, pour qu'ils voient un petit peu de quoi je suis capable. Effectivement, c'était une très très bonne expérience. Avec des échecs aussi, avec des bonnes choses. Et par la suite, je suis rentrée. Je suis rentrée différente, vraiment changée. Je me suis découverte. J'ai découvert mes limites. J'ai appris des choses. J'ai appris où sont mes limites et où est-ce que je peux mettre le nom. Parce que moi, je suis quelqu'un qui était toujours sur le « oui, d'accord, pour faire plaisir, pour être diplomate, il ne faut pas dire non, etc. Il faut aider, etc. Et » Et donc, du coup, j'avais commencé un travail comme ça sur moi quand j'étais en France. Et par la suite, à mon retour au Maroc, j'étais dans une entreprise où j'ai eu l'occasion de rencontrer un directeur extraordinaire. Omar, il se reconnaîtra, qui m'a permis de continuer le travail, c'est-à-dire en me donnant la reconnaissance que je voulais, la confiance que je voulais, dont j'avais besoin plus tôt. Et c'est là où j'ai exercé, effectivement, pour revenir au sujet du pardon du père, c'est là où j'ai exercé le fait, est-ce que effectivement le patron, je le verrai aussi comme un éventuel substitut du père. C'est-à-dire quand j'aurai besoin de parler, quand j'aurai besoin qu'il soit là, à mon écoute, etc. Est-ce que, effectivement, j'aurai la même attitude ? Mais effectivement, il était présent, mais plus professionnellement. Et j'ai pu corriger, effectivement, la relation que j'avais avec les patrons, avec les hommes en général. Mmh. Donc, c'est un travail que j'ai commencé depuis très longtemps. Donc, courant cette expérience-là, il y a un moment où, effectivement, pour revenir à l'échec, où je sentais que j'étais dans une spirale et que j'allais refaire la même erreur, c'est-à-dire de tomber dans l'idée que je ne sais pas faire, je ne peux pas monter en compétence, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, etc., etc. Et j'ai eu l'occasion d'être sauvée par une formation qui est la formation en coaching et développement managérial. Et c'est une formation qui m'a permis effectivement de comprendre pourquoi j'avais besoin de mettre ces limites-là dont on a parlé tout à l'heure, de savoir dire non. Et comment dire, et j'ai pu conscientiser un petit peu toutes les choses négatives que je voyais en moi, qui en fin de compte étaient des choses normales et positives. Par exemple, moi aujourd'hui, l'échec, je ne le vois pas en tant que chose négative, mais je le vois plus en tant qu'un booster pour s'améliorer de jour en jour. Et la meilleure amélioration, c'est l'amélioration de soi au niveau personnel. Pas que professionnel. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, les jeunes, ils ont un manque de confiance parce qu'ils relient un petit peu la réussite et la reconnaissance de leur entourage la réussite surtout, la réussite dans tout. Alors que quand vous voyez au niveau de leur personnalité, eh bien, ils sont pas là, ils n'ont pas de personnalité la plupart, ou bien ils ont cette peur de toujours paraître aux yeux des autres qui ne sont pas à la hauteur.
Ok, alors moi j'ai une question.
Oui, allez.
Pour toi, justement, Nora, pourquoi tu parles de beaucoup d'échecs? Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu en as eu autant?
Le manque de confiance en soi. Quand on est, alors, on est dans une société où la comparaison fait loi dans des familles, c'est-à-dire que moi je blâme personne, c'est juste que on est une société qui compare beaucoup, c'est-à-dire que regarde ton cousin, il a eu telle note, ta cousine elle a eu le bac au premier cours, alors, donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, à la fin ça donne un sentiment de nullité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas à la hauteur, et que les parents, nous, les parents ou la famille ou l'entourage en général, nous limitent à la réussite professionnelle ou à la réussite estudiantine. Et donc à ce moment-là, le psychique, il travaille comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand quelqu'un me dit écoute, tu ne peux pas y arriver, tu ne vas pas le faire, tu n'as pas les compétences pour. Automatiquement, ça se reflète sur les études ou sur le niveau professionnel. C'est-à-dire qu'à chaque difficulté, à chaque difficulté, la phrase de la comparaison qu'on n'est pas capable de faire fait que effectivement la personne n'arrive pas à faire la tâche demandée.
Mais toi, tu as dépassé ça maintenant.
Ah oui, là. Maintenant, je me dis, j'ai vraiment dépassé ça. J'ai plus confiance en moi. Je sais de quoi je suis capable. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Alors, pour revenir à l'échec, effectivement, j'ai eu 7 mois de chômage. Ces 7 mois de chômage, je les ai vécus dans un premier temps comme un échec. Donc, on ne change pas les. On chasse les abeilles et reviennent au galop. Donc, du coup, voilà. Donc, je l'ai vécu dans un premier temps comme un échec, mais par la suite, ça m'a permis à moi de voir les choses autrement. C'est-à-dire, ça m'a permis de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même, de passer du temps avec ma mère. Ça, c'était un avantage aussi. Mais aussi de me retrouver autrement. C'est-à-dire, me retrouver avec moi-même et retrouver. Plutôt reconsidérer la foi autrement. Parce que, effectivement, j'étais dans la prière, je priais, j'arrêtais, je priais, j'arrêtais. Mais ces 7 mois m'ont permis un petit peu de me rapprocher un peu plus de la foi, de comprendre des choses. Et surtout que je suis arrivée au constat qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, de pensée positive, etc. Et j'ai compris que dans le Coran, il y a beaucoup de thématiques sur ça. Et notamment, il y a un verset coranique qui dit que ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de il faut penser positif pour attirer les choses positives, ça existait depuis X temps dans la religion, mais nous, on n'était pas dedans, entre guillemets. Donc aujourd'hui, moi, c'est des choses qui m'ont aidé à travailler sur moi-même, à revoir la vie d'une manière plus positive et à repenser les choses. C'est-à-dire aujourd'hui, quand par exemple je réalise quelque chose et que ça ne marche pas, je me dis aujourd'hui que c'était pas le timing. C'est pas le timing.
C'est pas
Et
le
que
bon moment.
Voilà, c'est pas le bon moment et que ça va arriver au moment le plus inattendu. Et moi, si je suis si j'ai fait le master en coaching, c'est effectivement pour accompagner les gens dans ce sens. Et jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai pu, grâce à cette pensée, pouvoir répondre à certaines demandes de personnes que je connais qui me disent, voilà, on arrive au stade où rien ne marche, etc. Je leur dis, écoutez, c'est pas le bon timing. Si c'était le bon timing, ça aurait marché du premier coup. Et quand on arrive à ce stade-là, je pense qu'à partir de 40 ans, je crois qu'on a compris la vie un petit peu.
Alors justement, par rapport à juste provoquer l'avenir ou bien être dans le mindset de c'est pas le bon moment, comment switcher en fait? Parce qu'on nous apprend aussi tellement à il faut provoquer son destin, il faut provoquer l'avenir, il faut tout. Mais en même temps, en fait, c'est une
Oui, je suis d'accord. Il y a un dicton qui dit que, c'est-à-dire qu'on doit créer les opportunités. Ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il faut arrêter d'y penser, il faut arrêter d'y croire ou il faut arrêter de foncer et de faire les choses. Si le résultat est positif, alhamdoulillah, salam. Et si le résultat n'est pas positif, alhamdoulillah, salam.
Et depuis ce changement de mindset, tu te sens mieux?
Oui, je me sens super bien. Je stresse moins sur des choses. Je stresse moins sur des choses sur lesquelles j'étais souvent stressée. Et je prends le temps. Je prends le temps de considérer les choses. Je prends le temps de faire les choses. Et si ça ne marche pas, je revois la manière avec laquelle j'avais travaillé la chose.
Est-ce que
Quand il y a des
finalement,
choses.
justement, pardon, Nora, avec ce changement de mindset, est-ce que ce qui n'a pas marché, vous le voyez toujours comme un échec? Est-ce que vous lui mettez toujours le mot échec?
Non,
L'étiquette échec?
je mets le mot timing.
Ça, oui.
Je mets le mot timing et je mets le mot que ça ne m'a jamais été destiné.
Oui.
Parce que vous savez, que ce soit le partenaire, ou là, c'est pas question d'endroit, c'est pas question d'entourage, c'est juste question de timing et juste question, moi je me dis que tout est relatif à la foi. Si on croit en Dieu, on croit au timing, on croit au fait que oui, effectivement, on provoque les opportunités, mais si ça ne marche pas, c'est bon. C'est bon, on respire. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Parce que moi, je vois aujourd'hui mon entourage, je vois des gens qui sont dans l'idée de ça n'a pas marché, donc c'est moi la fautive, Zahri. Alors que Zahri, c'est relatif, Aslan. Depuis toujours, étant donné que ouais, de toute façon, la famille d'Yana, elle a toujours été comme ça. Et là, donc, moi, j'accumule. Et je me dis que l'échec, par exemple, des gens se disent que l'échec où ils sont aujourd'hui, c'est le fruit des échecs anciens. Et alors, moi, j'ai travaillé sur une autre chose qui est très importante à mes yeux, c'est la victimisation. Malheureusement, j'avais tendance à me victimiser. C'est pas ma faute, c'est les autres. Non, c'est pas les autres, c'est moi. Alors, si on arrive à comprendre que la plupart du temps, c'est pas les autres, c'est nous, déjà on a fait la moitié du travail. Par exemple, j'ai un exemple concret, relativement au métier. Moi, j'ai fait du recrutement. Donc, pour moi, quand j'étais candidate, quand je partais dans les entretiens, je me disais toujours, les recruteurs, ils veulent recruter tel type de profil. Ils ne sont pas intéressés par mon profil. J'étais très bien dans l'entretien, mais ça n'a pas marché. Alors que par la suite, après un recul, je me dis en fait, c'est moi qui ne m'étais pas préparée. C'est moi qui ne savais pas ce que je voulais exactement. Donc, si on change de mindset niveau victimisation, on aura avancé. Enfin, pour moi, par contre.
Absolument, absolument. Alors, peut-être pour finir, justement, quand tu dis je
Oui.
suis la pro de l'échec, aujourd'hui, est-ce que tu peux reformuler cette phrase?
Je dirais que je suis la pro des apprentissages.
Ah ben ça, c'est beau.
Oui, je suis la pro des apprentissages. Et grâce à tout ce que j'ai vécu, aujourd'hui, je suis résiliente. Je suis résiliente dans la mesure où je me dis, j'ai pas eu la vie que je voulais, mais quand même, je changerai rien. Parce que c'est grâce à elle que j'ai aujourd'hui cette personnalité-là. C'est grâce à elle que j'ai un entourage qui m'aime pour ce que je suis, un entourage qui m'a soutenue, un entourage qui m'a élevée dans des moments où j'étais vraiment down. Et je me rappelle très bien que lors du master, il y avait une personne que je connaissais de loin, je connaissais juste sur LinkedIn, on m'avait jamais échangé. Il s'appelle Faisal, il se reconnaîtra. Et quand il m'a vu au moment du master, on était en train de discuter sur une thématique du coaching. Il a levé la main et il a dit à la prof, vous savez, Nora, c'est une combattante. Et ça, c'est un témoignage que je n'oublierai jamais parce que vraiment, il a résumé un petit peu mon parcours de vie.
Oui, Nora, tu combats encore la vie ou pas?
Oui, bien sûr. Écoutez, la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat.
Pourquoi tu la vois comme ça? Pourquoi la vie n'est pas justement juste la vie? Pourquoi mettre il a une charge émotionnelle qui est très lourde, en fait. Quand on dit la vie est un combat, c'est très lourd en émotion.
Aujourd'hui, je le vois un combat positif. Pourquoi? Parce que le combat, c'est quoi pour moi aujourd'hui? Il y a longtemps, je vous aurais dit le combat, c'est la douleur, c'est la difficulté, c'est... Non, non, non. Le combat aujourd'hui, c'est la création d'opportunités et de foncer. Quel que soit le résultat. Le bonheur, c'est de faire la chose. Si ça marche, c'est OK. Si ça marche pas, c'est bon. C'est pas le bon timing.
OK. Merci beaucoup, Nora Baradi, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec plaisir. Merci à vous pour le temps accordé. Et j'espère que vous avez été contre-fils à qui elle a sa mienne. J'espère que mon parcours inspirera d'autres. Et je souhaite le bonheur à tout le monde. Je souhaite que tout le monde puisse arriver au stade où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas parfaite. Mais également aussi, je suis le summum de la résilience. Mais c'est un travail de longue haleine.
Merci beaucoup, Nora. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média. Et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.